votre propre vie. Quelle est la lumière qui vient nous éclairer? Voilà les questions que soulève le psaume 36 que nous allons lire, un psaume qui a été écrit par le roi David. Et on sait que David n'a pas toujours cherché à combler les besoins profonds de son cœur d'amour. Parfois, il a fait des choix terribles. Il a essayé d'aller combler les besoins de son cœur loin de Dieu. Et ça a eu des conséquences terribles. On sait que David n'a pas toujours eu cette lumière de Dieu pour éclairer son sentier. Et ça a d'autant plus de force que Dieu ait choisi le roi David pour écrire le psaume 36. Il était un homme selon le cœur de Dieu. Alors, le contexte de ce psaume, avant qu'on le lise, on n'en a pas beaucoup. On sait juste que David, inspiré par le Saint-Esprit, est en train de méditer. Il est en train de méditer sur quoi? Sur le cœur du méchant. Autrement dit, le cœur du coupable. On pouvait traduire le mot de cette manière. Il médite et va faire une déclaration sur le cœur des méchants. Je ne sais pas si comme moi vous avez suivi cette dernière année des procès qui ont été largement médiatisés dans nos informations. Des procès sur des affaires sordides et dont les médias ont raconté. En quelque sorte, cela nous a donné accès au cœur du méchant, à ce que l'âme humaine est capable de faire dans les pires choses. Qu'est-ce qui les motive? Où est-ce qu'ils vont chercher leur source pour faire cela? Quelle lumière ils utilisent pour aller si loin dans la méchanceté? Et vous allez voir, ce psaume a des choses à dire sur nos propres cœurs. Et quand on le lit, regardons à nos propres cœurs aussi. Alors je vous propose de le lire, et alors que nous le lisons, essayez de repérer avec moi. Vous allez voir dans le psaume, David va donner trois descriptions de personnes. D'abord, une description, puis une deuxième, puis une troisième. Essayez de la deviner alors qu'on le lit, et puis on va le commenter ensemble. Donc voici le psaume 36. C'est un peu petit, je suis désolé pour ceux qui sont au fond, je vais le lire à voix haute pour que vous puissiez le suivre facilement. On cherche le cœur du serviteur de l'Éternel, de David. La parole de révolte du méchant pénètre au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux, car il se voit d'un œil profanateur pour reconnaître son crime et le détester. Les paroles de sa bouche sont fausses et trompeuses. Il renonce à être sage, à faire le bien. Il médite l'injustice sur son lit. Il s'engage sur une voie qui n'est pas bonne. Il ne repousse pas le mal. Éternel, ta bonté s'élève jusqu'au ciel. Ta fidélité atteint les nuages. Ta justice est aussi haute que les montagnes de Dieu. Tes jugements sont profonds, comme le grand océan. Éternel, tu secours les hommes et les bêtes. Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu. À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison. Et tu les fais boire au torrent de tes délices, car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie, et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent, et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de l'orgueilleux ne m'atteigne pas, et que la main des méchants ne me fasse pas fuir. Ils tombent déjà, ceux qui commettent l'injustice. Ils sont renversés, et ils ne peuvent pas se relever. Voilà la parole de Dieu, ce psaume 36, écrit par David. Est-ce que vous avez repéré les trois personnes qui sont décrites dans ce psaume? Le méchant, coupable. Et puis ensuite, David passe à une autre description, totalement différente. Les regards de David se tournent vers Dieu, vers l'Éternel, et il emploie des métaphores immenses, tout ce qu'il y a de plus grand sur terre. Il compare les caractéristiques de Dieu à ces grandes choses. Et puis ensuite, il décrit une troisième personne, celui qui se réfugie en l'Éternel. Et ça nous montre un chemin. Et je vous propose qu'on regarde ce chemin ce matin et qu'on le fasse notre pour notre semaine, pour notre vie. Parce qu'il y a quelque chose de précieux que la parole de Dieu révèle. Un chemin précieux pour toi et moi. Et je vous propose qu'on le regarde ensemble. À la fin du psaume, après avoir décrit ces trois personnes, David va prier et il va faire une déclaration de foi. Et nous allons le regarder ensemble aujourd'hui. Alors commençons par la description du méchant, qui révèle en fait le mécanisme du péché dans la vie des hommes. Et regardons bien parce qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant. La parole de révolte du méchant pénètre au fond de mon cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant ses yeux. En Exode 20, Dieu va donner les 10 commandements à son peuple, pour ceux qui se rappellent de cette histoire. Le peuple d'Israël vient d'être libéré d'Égypte, et Dieu est sur la montagne. Et il va s'adresser directement à tout son peuple. Quand je dis s'adresser directement, c'est vraiment directement. C'est pas par l'intermédiaire d'un prophète, ou par l'intermédiaire de Moïse. C'est la voix de Dieu qui va être entendue du haut de la montagne. Imaginez, le peuple est là, et la montagne tremble, et la voix de Dieu se fait entendre, et les 10 commandements sont proclamés. Le peuple est complètement tétanisé. Le peuple voit Dieu et il craint Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait ce peuple? Il dit, c'est trop pour nous. Moïse, s'il te plaît, que Dieu ne nous parle plus directement. C'est trop pour nous. Et il demande à Moïse d'être l'intermédiaire entre Dieu et Dieu. Et c'est ce que Dieu va accorder. Moïse va être cet intermédiaire. Et au verset 20 du chapitre de l'Exode, il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, j'ai mis la crainte de l'Éternel dans leurs yeux afin qu'ils ne pêchent pas. Autrement dit, lorsque la crainte de l'Éternel est devant nos yeux, nous nous détournons du péché. Lorsque la crainte de l'Éternel n'est plus devant nos yeux, alors commence le cheminement du péché. Voilà ce qui se passe dans le cœur du méchant. David est en train de réfléchir à ce qui se passe dans le cœur du méchant. Et voici le point de départ, la crainte de l'Éternel. Celui qui n'a plus la crainte de l'Éternel devant les yeux, il commence à se détourner. Paul réutilise exactement cette expression en Romains 3 quand il décrit le sort de toute l'humanité. Autrement dit, Paul dit que toi et moi, notre voisin, ceux qui habitent au Rhin, ceux qui habitent dans ton village, ont tous cette caractéristique que lorsque nous n'avons pas la crainte de l'Éternel devant les yeux, nous nous tournons vers le chemin du péché. Je continue dans cette description du méchant, c'est toujours une affaire de regard. Car il se voit d'un œil trop flatteur pour reconnaître son crime et le détester. C'est une question de regard. Lorsqu'on détourne le regard de qui est Dieu et que nous tournons les regards vers nous-mêmes, alors c'est le cheminement du péché, nous nous regardons de manière trop flatteuse. Après tout, je ne suis pas si mauvais que ça. Regarde l'autre. Et voilà comment le cheminement du péché prend dans ton cœur où nous nous regardons d'un regard trop flatteur. Et là, le psaume décrit un cheminement qui continue. On ne reconnaît plus notre crime. Les paroles de notre bouche sont fausses et trompeuses. Nous renonçons à être sages, à faire le bien. Nous méditons l'injustice sur notre vie. Nous nous engageons sur une voie qui n'est pas bonne, nous ne repoussons pas le mal. Voilà qui caractérise peut-être les personnes que vous avez autour de vous. Quand David écrit le contexte du psaume, c'est qu'il pense à des méchants. David, dans sa vie, il a été persécuté, il a été poursuivi par des hommes qui l'ont voulu. Et peut-être voit-il, au travers de Saül, de ses armées, cette méchanceté qui est à l'œuvre. Peut-être que toi aussi, ce matin, tu penses à des personnes qui, autour de toi, pourraient bien coller à cette description. menace. Et d'être écrit dans ce contexte, il y a quelque chose pour nous qui semble peut-être à subir des personnes malveillantes autour de nous. Mais nous devons aussi nous poser la question. Et moi, mon propre cœur. Est-ce que ce mécanisme que David observe dans le cœur du méchant, est-ce que c'est un mécanisme que je veux trouver dans mon propre cœur? Il y a une question arrivée là dans le psaume, c'est peut-on sortir de ce cercle vicieux? Lorsqu'un pied a été mis vers ne plus regarder vers Dieu et ne prendre avoir la crainte et regarder dans son propre cœur, en se trouvant pas si mal que ça, et en continuant à s'enfoncer dans le péché, comment sortir de ce cercle vicieux? C'est là qu'il y a une nouvelle. C'est là que le psaume nous amène plus loin que le cœur du méchant. Et Isaïe 55 dit que le méchant abandonne sa voie, et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il nous pardonne abondamment. Alors, depuis cette première étape où nous avons regardé le cœur du méchant, sur David, et un peu moins dans le texte, et regardons ce que David dit maintenant, alors qu'il tourne ses regards vers Dieu. Éternel, ta bonté s'élève jusqu'au ciel. Ta fidélité atteint les nuages. Ta justice est aussi haute que les montagnes de Dieu. Tes jugements sont profonds comme le grand océan éternel. Tu secoues les hommes et les bêtes. Combien ta bonté est précieuse, ô Dieu. Dieu est bon. Vraiment bon. D'une bonté incomparable. Utilisa ce qu'il y a de plus grand dans les yeux, jusqu'au ciel. La bonté de Dieu habite tout ce qui peut être habitable dans tout ce qui nous entoure. Cette bonté de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Et là, il connaît cette bonté, il y a goûté personnellement. Et alors qu'il médite sur le méchant, sur le cœur du méchant, maintenant son regard se tourne vers la bonté de Dieu. Dieu est bon, vraiment. Et David continue, non seulement Dieu est bon, mais il est fidèle, d'une fidélité parfaite, plus fidèle et plus digne de confiance que n'importe quel être humain sur cette terre. Ça a été mentionné ce matin. Si nous sommes infidèles, Dieu, lui, demeure fidèle. Sa fidélité est parfaite. Les promesses qu'il fait, l'alliance qu'il fait ne repose pas sur notre capacité, mais sur la sienne. C'est lui qui a rendu possible l'impossible. C'est lui qui s'est engagé. Et sa fidélité dépasse les âges. Et puis David continue à nous décrire l'Éternel, et cette fois, il médite sur la justice de Dieu. Une justice qui s'élève jusqu'aux montagnes. Une justice parfaite. Bien plus parfaite que les juges des affaires médiatisées dont j'ai parlé tout à l'heure. Une justice qu'on ne trompe pas. Dieu ne peut pas être trompé et Dieu ne se trompe pas. Sa justice est pure et parfaite. Ses décisions sont parfaitement justes. Et ça va avec, la vie termine avec les jugements de Dieu qui sont parfaits. Bonté, fidélité, justice. Trois caractéristiques. Où David, alors qu'il médite sur le cœur du méchant, tout le monde tourne ses regards, comme s'il réorientait son regard au bon endroit. Et il se met à adorer Dieu et nous invite à le faire pour sa bonté, pour sa fidélité et pour sa justice. Est-ce que vous pouvez penser à une personne sur cette terre qui est capable de maintenir ensemble ces trois caractéristiques? La bonté, la fidélité et la justice. C'est difficile à mettre ensemble. C'est difficile à tenir ensemble. Et en fait, si on regarde dans la Bible, il y a une vraie tension entre ces choses. Dieu qui est juste, comment pourrait-il pardonner le méchant des premiers versets? S'il est juste, ce méchant doit être condamné. Si je suis lésé dans une affaire et que je vais voir le juge, je m'attends à ce que le juge soit juste avec mon ennemi qui le condamne, n'est-ce pas? Nous ne voudrions pas d'un juge qui, à chaque fois que quelqu'un se défend, dit « C'est bon, c'est pas grave, bien pire, tu peux y aller. » Non, ce ne serait pas un juste juge. Alors comment Dieu peut-il être bon et juste à la fois? Et quand Dieu me regarde moi et te regarde toi, quel est son jugement? Est-ce que nous passerions devant la justice de Dieu? Est-ce que nous passerions, nous serions déclarés justes? Certainement pas. Est-ce que vous la voyez cette tension? Dieu nous aime et il veut sauver sa créature qui s'est éloignée de lui. Mais Dieu est juste et il ne veut pas laisser sans conséquence le péché, la désobéissance. Et il y a la bonté, l'amour de Dieu et la justice de Dieu qui sont là ensemble. Et dans toute l'histoire de la Bible, dans l'Ancien Testament, on voit ces deux caractéristiques de Dieu qui s'expriment dans une tension. Dieu qui aime, mais Dieu qui doit être juste. Comment résoudre cette tension? Tout dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de la Bible, mène à un endroit où l'amour et la justice de Dieu vont être parfaitement réunis. Le seul endroit où c'est possible, absolument le seul endroit où c'est possible, à la croix. Là, le Fils de Dieu a montré son amour pour nous en donnant sa vie pour nous. Tout l'amour de Dieu, toute la bonté de Dieu s'est déversée dans cette démonstration d'amour. Le Fils, par amour, a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés. Il a été abandonné pour que nous ne soyons jamais abandonnés. Et en même temps, la justice de Dieu qui s'est déversée à la croix, la punition qui était réservée au péché, a été déversée sur Christ. C'est lui qui a pris le coup de la justice, de la colère de Dieu. C'est lui qui a pris la condamnation qui était réservée à ceux qui étaient condamnés. Et à la croix, cet amour et cette justice de Dieu sont réunis et dans une lumière époustouflante sont parfaitement réunis pour que nous puissions être aimés et déclarés justes à la fin. Quelle merveilleuse nouvelle! Dieu nous aime, mais en plus il peut le faire en restant juste parce que le prix a été payé. Sa bonté s'élève jusqu'au ciel, sa justice jusqu'aux montagnes, ses jugements sont plus profonds que l'océan. Voyez que David nous mène, il nous mène dans le cœur de Dieu, sa bonté, sa fidélité et sa justice réunies à la croix. Et c'est alors que nous pouvons faire le pas suivant. Rappelez-vous, nous sommes dans la partie du cœur du méchant, celui qui détourne sa crainte de l'Éternel et qui s'enfonce dans le cheminement du péché. Mais David nous a amené plus loin, nous a amené à tourner le regard vers qui est Dieu. Sa bonté, sa fidélité et sa justice qui sont réunies à la croix. Et alors nous pouvons faire un pas supplémentaire, seulement parce que nous avons compris la bonté, la fidélité et la justice de Dieu. Il nous parle maintenant de la source et de la lumière que trouve celui qui trouve son refuge en Dieu. À l'ombre de tes ailes, les hommes cherchent un refuge. Ils se rassasient de l'abondance de ta maison, et tu les fais boire au torrent de tes délices, car c'est auprès de toi qu'est la source de la vie. Et c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Regardez les images que David utilise encore. Il nous a amenés dans le cœur du méchant. Il nous a amenés ensuite dans la grandeur de la bonté, de la fidélité, de la justice de Dieu. Et maintenant, ils ont même dans l'intimité que l'homme qui trouve refuge en l'Éternel peut vivre avec lui. Et les images sont marquantes, sont frappantes. Ils nous parlent de nourriture, ils nous parlent de boissons, de lumière et de source. Où trouves-tu ton refuge? Où trouvons-nous notre refuge? Il y a plein d'endroits où toi et moi, nous pouvons tenter de trouver refuge ailleurs. Notre coup de banque, je suis rassuré lorsque mon compte en banque a suffisamment d'avance pour les mois à venir. Sécurité. Ma famille, mes parents, mes enfants, ma femme, et je me réfugie parce que quand ça va bien, c'est bon. Mon travail, je m'accomplis dans mon travail et je dois trouver là refuge et sécurité. Mes études, mes bonnes notes à l'école, dans le collège et le lycée sont partis. L'église peut être un refuge. Quand je dis l'église, je parle des hommes et des femmes dans l'église. Et puis, il y a des refuges plus pervers, plus évidemment mauvais. La cigarette peut être un refuge. Je suis stressé et j'ai besoin absolument de cigarettes. Je me réfugie dans quelque chose qui est destructeur. L'alcool, l'immoralité, autant de faux refuges. Dieu nous invite à l'ombre de ses ailes. Il nous invite à venir puiser à la source de la vie et pas dans les faux refuges qui sont des idoles dans nos vies. Et qui nous amène à la sécheresse. Parce que tous les refuges que je viens de mentionner sont comme des citernes percées. Vous attendez à trouver de l'eau, mais la citerne est percée. Le contenant n'est pas fidèle, ni bon, ni juste. Les hommes et les femmes que Dieu a placés autour de moi ne sont pas bons, justes et fidèles comme Dieu les pensait. Évidemment, les sources mauvaises comme la cigarette, l'alcool, etc. sont bien pires encore que les citernes percées. Dieu nous invite à une nourriture abondante dans la maison de Dieu. Dieu nous invite, lorsque nous trouvons refuge en lui, à venir nourrir nos cœurs, nos âmes en lui. Pas pour les idoles, mais en lui. C'est lui qui veut combler les besoins de nos cœurs. Avez-vous remarqué que Jésus a enseigné aux disciples à prier « Donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour. » C'est de cette nourriture dont nous avons besoin. C'est dire à Dieu tous les jours « Seigneur, je veux dépendre de toi pour combler les besoins profonds de mon cœur. » Et non pas aller chercher ailleurs qu'en toi pour combler les besoins de mon cœur. Je me souviens, il y a quelques années aussi, j'ai eu l'occasion de voyager au Liban. J'étais jeune enseignant à l'époque et j'avais fait un stage dans une école qui était un collège au Liban. Et c'était un partenariat entre l'éducation nationale et puis un collège au Liban. Il se trouve que ce collège, c'était ils appelaient ça un couvent, c'était une espèce de monastère. C'était quatre moines qui étaient les principaux directeurs de cette école, de ce collège. Et donc moi, jeune enseignant en formation, j'avais été envoyé pour enseigner pendant 3 semaines là-bas. Et donc j'ai connu la vie monastique. Pendant 3 semaines, j'étais hébergé avec les moines. Il se trouve que ces moines avaient une cuisinière à temps complet. Une dame qui faisait la cuisine pour eux, à temps complet. Et alors que nous étions les hôtes de ces 4 moines, vivants, nous avions un accès illimité à la cuisine. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissez la nourriture libanaise, mais c'est particulièrement beau. Et fin. Et pendant 3 semaines, j'ai eu un accès illimité à un frigo immense dans lequel il y avait plein de mets délicieux et nous avions toute habilité, autorisation à nous servir dans ce frigo. C'est un souvenir ému. 5 kilos, je crois. Dieu parle de sa présence comme d'un banquet dans lequel nous avons accès, une nourriture bonne et délicieuse. Et nous sommes invités chaque jour, non pas une fois, mais chaque jour, à venir dans cette présence, dans sa parole, à venir épuiser cette nourriture. Et puis, le texte nous parle de boisson abondante au torrent des délices de Dieu. Où sont nos sources et où allons-nous puiser l'eau? Cette eau, c'est l'eau du Saint-Esprit. C'est l'eau dont Jésus parle à la femme samaritaine. C'est cette eau où Jésus dit que lorsque nous la recevons, elle déborde jusque dans la vie éternelle. C'est cette vie de dépendance à Dieu qui fait que nous pouvons ne plus être secs, même lorsque la sécheresse est là, même lorsque le soleil est difficile, que les circonstances de nos vies sont difficiles, nous pouvons puiser dans cette eau la présence du Saint-Esprit dans nos vies, qui rend possible l'impossible dans mon caractère, dans mes décisions, dans les forces que j'ai. Voilà ce que cette eau vive fait. Elle vient transformer nos capacités. Paul dit, ce n'est plus moi qui vit. C'est Christ qui vit en moi. Et alors nos caractères sont transformés. Nous prenons des décisions qui n'auraient pas été les nôtres parce que cette eau vit et coule dans nos vies. Alors que nous regardons cette description de l'homme qui se confie en l'éternel, je vous rappelle, on a commencé dans le cœur du méchant. Ensuite, on a tourné nos regards vers Dieu, sa bonté, sa fidélité et sa justice. Et vraiment, la vie nous entraîne dans le creux de la présence de Dieu. La description de l'homme qui se confie en l'éternel. Nos yeux sont tournés vers Christ. Il est dit qu'il est la source de la vie. La source de la vie, c'est ce que Jésus révèle à la femme samaritaine. Jésus est la source de la vie. Il dit aussi qu'il est cette lumière qui vient éclairer nos cœurs. Et je peux vous dire que si vous voyez comme ça de l'intérieur de mon propre cœur, de mes propres pensées, probablement que personne d'entre nous ne serait d'accord ici pour qu'on mette la lumière sur ses pensées et qu'on les affiche ici à l'écran. Mais lorsque cette lumière vient éclairer nos vies, Dieu ne s'arrête pas au dégoût du péché. Dieu vient faire couler son eau qui transforme et qui rendit et qui pardonne. Après avoir cheminé dans ce chemin de la vie, arrive enfin à la prière. Il a commencé du cœur du méchant, il a réorienté son adoration vers Dieu et il a médité sur ce que l'on trouve à l'aide, quand on a l'ombre des ailes de Dieu, sous la protection des ailes de Dieu. Et là, il prie. Et qu'est-ce qu'il prie? Étends ta bonté sur ceux qui te connaissent. Et ta justice sur ceux dont le cœur est droit. Que le pied de leur milieu ne l'atteigne pas. Et que la main des méchants ne le fasse pas fuir. Nous qui avons été pardonnés en Jésus-Christ, nous qui avons reçu cette eau, cette lumière en nos vies, alors nous pouvons quand même prier de cette manière, une prière de bénédiction. Seigneur, étends ta bonté. Donne-moi de goûter encore à cette bonté. Et nous pouvons prier ça pour nous-mêmes. Nous pouvons prier ça pour nos églises ici à Réunion. Nous pouvons prier ça pour nos familles. Nous pouvons prier ça pour nos voisins et nos collègues de boulot. Seigneur, étends ta bonté. Vous voyez que cette bonté, elle est pour ceux qui le connaissent. Ceux dont le cœur est droit, et nous venons de faire la démonstration que le cœur du méchant décrit nous concerne tous. Aucun d'entre nous ne peut dire mon cœur est droit. C'est seulement à l'ombre des ailes de Dieu que nous recevons cette droiture et cette justice. Et puis David prie aussi une prière d'intercession. Il dit Seigneur, protège, empêche l'ennemi, empêche le méchant de faire des ravages. Et nous pouvons prier de cette manière aussi. Une prière de bénédiction, Seigneur, et dans ta bonté. Et une prière de protection, d'intercession. Seigneur, garde-moi dans ma vie l'ennemi, du grand ennemi. nos églises, pour l'église libre ici, pour l'église du Sept, mais aussi les autres églises à Aubagne, dans le pays d'Étoile, dans notre région. Seigneur, protège. Et puis le psaume se termine par un basculement. Voilà qu'on se conclut le psaume, c'est un peu étonnant. Ils tombent déjà ce qu'ils promettent l'injustice. Ils sont renversés et ils ne peuvent pas se relever. Ce n'est plus la prière, c'est une déclaration. Rappelez-vous le contexte. David était assailli par des méchants, tel Saül et ses soldats. Et David médite sur leur cœur, le cœur du méchant. Et alors qu'il médite, il tourne ses yeux vers l'Éternel et il se met à l'adorer. Et alors qu'il médite, il se met à recevoir la protection de l'ombre du Très-Haut. Et depuis ce lieu de l'intimité avec Dieu, il prie. Une prière de bénédiction et une prière de protection. Quelle est sa conclusion ? Je sais que tu as déjà agi. Je sais que tu es déjà victorieux. Alors que je suis en train de prier, il n'y a pas encore dit Amen. David dit, c'est fait. C'est fait. Je ne sais pas comment, mais je sais que c'est fait. Et c'est à cette foi que David nous entraîne dans le psaume 36. Et j'aimerais conclure maintenant. Voyez ce psaume, et j'espère que vous en souviendrez ce cheminement. D'abord, il décrit le mécanisme du péché. Ensuite, il nous entraîne vers Dieu, dans la présence de Dieu, dans ses hautes montagnes, dans ses profondes vallées. Il décrit sa bonté, sa fidélité et sa justice. Il nous conduit vers Christ à la croix. Il nous conduit vers celui qui peut nous donner cette eau et cette lumière qui vient transformer nos vies. Et c'est depuis cette position de l'intimité avec Dieu que David nous entraîne maintenant à prier et à dire « Seigneur, bénis, Seigneur, protège. » Et dans mon cœur, comme David, un retournement peut se produire. Je sais, Seigneur, que parce que tu es bon, parce que tu es fidèle et juste, tu agiras. Voilà un cheminement que vous regardez pour cette semaine. En relisant ce psaume, laissons la lumière de Dieu venir diagnostiquer ce qu'il y a dans votre propre cœur. Quand vous lisez la description du méchant, les premiers versets, dis-toi au Saint-Esprit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux révéler dans mon propre cœur? À quel moment je me suis détourné de ta crainte et je me suis regardé d'une manière flatteuse? En trouvant que finalement, je n'étais pas trop mal, bien mieux que l'autre. Que le Seigneur vienne toucher nos cœurs. Et que là où il y a des choses qui sont révélées, nous puissions tout simplement laisser la lumière de Dieu. Vous avez à dire, je reconnais que dans ce domaine-là, votre bon est pardon. Et renoncez à ma mère et vie. L'étape suivante, c'est réorienter l'adoration. Ce que nous adorons influence ce que nous faisons. Ce que nous adorons influence ce que nous faisons. Si j'adore mon compte en banque, si j'adore mon travail, si j'adore ma famille, cela influence ce que je fais. Et David nous amène à réorienter notre adoration pour dire, c'est toi, Dieu, qui es digne d'adoration. Et on peut le faire, si cela vous montre des choses concrètes dans ta vie maintenant, prends ce chemin. Et réorientes ton adoration. Et alors, Dieu nous dit que nous pourrons déborder. Nous pourrons déborder de cette eau vive. Et c'est ma prière pour vos églises. Ce que je partage là, ce que la parole de Dieu nous révèle, c'est cette bonne nouvelle que nous voulons partager. Cela est bon pour nos vies, mais cela est bon pour nos voisins. Cela est bon pour ceux qui ne connaissent pas encore cette bonne nouvelle. Et voilà notre mandat à nous, en tant que chrétiens, ici, dans la région d'Aubagne, de laisser Dieu vivre en nous pour que nous débordions et que nous puissions annoncer qu'il y a une bonne nouvelle pour les méchants, qu'il y a une bonne nouvelle pour les cœurs perdus. Dieu est bon, fidèle et juste pour pardonner et purifier en Jésus-Christ. Alors que nous sommes réunis ce matin, c'est ma prière que Dieu nous dirige ensemble pour que dans les temps que nous vivons, dans les temps troublés que nous vivons, nous puissions être cette Église débordante, cette Église qui laisse la source de Dieu venir déborder, pour que ceux qui sont autour de nous puissent dire « Le royaume de Dieu est venu jusqu'à moi parce qu'il a passé un tel auprès de moi. » Je prie aussi que Dieu nous donne le discernement en tant qu'Église au pluriel, pour savoir comment nous unir, comment œuvrer ensemble, pour permettre que ce cheminement que le Saint Francis nous montre puisse être connu, expérimenté, bien au-delà de nos propres églises. Que le Seigneur se glorifie par la lumière qu'il veut faire briller de nous. Vous êtes les lumières que Dieu a placées, nous sommes les lumières que Dieu a placées. Là où nous travaillons, là où nous habitons, là où nous a mis dans nos familles et dans nos voisinages. Que le Seigneur nous fasse briller, non pas parce que nous sommes dignes de lui, mais parce que c'est sa lumière qui brille en nous. Nous pouvons le prier. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est une parole délicieuse, c'est une parole, un mets délicat pour nos âmes. Elle est une parole bienfaisante. Nous en avons tellement besoin. Seigneur, donne-nous de méditer encore ta parole et que par exemple ce psaume 36 puisse nous accompagner cette semaine. Et que nous puissions cheminer avec David depuis le cœur du méchant, depuis notre propre cœur, à reconnaître notre besoin désespéré de ton pardon et de ta grâce. Que cela nous mène dans les vallées et les montagnes magnifiques de qui tu es. Et que nous puissions volontairement cette semaine te louer et t'adorer, orienter nos regards, non pas vers notre propre cœur, mais vers toi, pour que nous puissions t'adorer, toi qui es bon, tellement bon, toi qui es fidèle, tellement fidèle, et toi qui es juste, parfaitement juste, toi qui as accompli toutes ces choses à la croix, pour nous, pour que nous puissions être déclarés justes et aimés par toi. Seigneur, merci pour cette merveilleuse bonne nouvelle qui coule de ton cœur, et que cela nous mène à être ceux qui trouvons notre refuge en toi. Garde-nous de faux refuges dans nos vies, et donne-nous, Seigneur, de recevoir la nourriture, l'eau et la lumière de toi. Et que nous puissions, à notre tour, refléter cette lumière et déborder de cette vie que tu as mis en nous. Seigneur, nous te demandons.